Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 25 août 1989 à Saint-Jeudard.
Dernier jour, puisque ça se termine ce soir, et vous voyez bien, il y a encore beaucoup de choses à voir. On a essayé de voir un point particulier. D'abord, qu'est-ce que c'est que la théologie? Ce qui est très important. Et puis, ces deux aspects que je crois qu'on doit toujours avoir. La source de la théologie, c'est l'écriture, la tradition, l'enseignement actuel de l'Église. Puis ce souci qu'on doit garder de cette théologie scientifique que Saint Thomas nous donne, qu'on oublie trop aujourd'hui, qui est difficile, je sais bien. On m'a dit c'est trop difficile pour beaucoup, ça n'a pas d'importance. On retient toujours quelque chose et on essaie de comprendre. Ce souci qu'a eu saint Thomas de mettre toute son intelligence au service du mystère de Dieu, au service du mystère du Christ. Et puis, ce point de vue de la théologie mystique est plus facile pour nous parce que c'est plus proche de notre foi et de notre charité. Alors je continue. De regarder ce point de départ du traité du Christ, le mode d'union. Ce mode d'union qui, selon le concile de Chalcédoine, saint Thomas ne l'a pas inventé, il a pris l'enseignement de l'Église. Toutes les premières discussions des premiers conciles, c'est sur le mystère de Jésus. Et ça reste. On peut dire que toutes les discussions théologiques aujourd'hui, c'est encore sur le mystère de Jésus. Plus que sur le mystère de la très sainte Trinité. On comprend, puisque c'est la source de toute notre vie chrétienne. Alors toutes les erreurs que nous faisons, erreurs, confusion, disons, manque de précision, que nous faisons sur le mystère de Jésus se répercute dans toute notre vie chrétienne et dans toute notre vie apostolique, sur toute la conception de la catéchèse. C'est pour ça qu'il faut tout le temps revenir à la source. Il y a eu de fait deux grands courants constants qui existent encore aujourd'hui. Le courant d'Antioche qui insiste sur le mystère de l'humanité du Christ et Alexandrie qui insiste sur la divinité. On retrouve encore aujourd'hui cela. Peut-être aujourd'hui plus sur un aspect plus psychologique sur le mystère de Jésus, homme, et sans oublier la divinité. Mais le mystère de Jésus vu d'en haut. On n'hésite pas aujourd'hui de dire qu'il y a deux visions du mystère du Christ, une d'en haut et l'autre d'en bas. Il ne faut surtout pas les séparer. L'erreur viendrait les séparer. Qu'il y ait perpétuellement en nous ce double aspect, ça fait partie du mystère de Jésus. Jésus est l'homme parfait. Jésus est Dieu. Alors, dans la foi, nous affirmons qu'il est le Verbe incarné. Le Verbe qui a assumé la nature humaine et qui l'a assumé parfaitement. En vue mystère du salut. Donc, toujours, ce double regard qui ne fait qu'un dans notre foi, ce mystère de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu, du Père, qui veut nous montrer sa bonté plénière et sa miséricorde. Miséricorde, il vient nous sauver, et pour nous sauver pleinement, il se donne entièrement à nous. Mystère de sa bonté. Et on voit par là combien le mystère de l'incarnation nous manifeste toute la bonté du Père pour nous. Il nous donne son Fils, le secret de toute sa vie. C'est donné. Et pendant 2000 ans, ce secret demeurait caché. Il était bien annoncé d'une manière énigmatique, c'est-à-dire d'une manière assez cachée et non explicite. Quand ce mystère nous est révélé, il a commencé d'être révélé à Marie. C'est Marie qui a reçu la première. La révélation explicite du mystère du Fils. Quand ce mystère a été révélé, nous comprenons tout de suite, par l'incarnation, le mystère de la très sainte Trinité. C'est par le Fils que nous remontons vers le Père. Et c'est par le Fils que nous découvrons l'Esprit Saint. Il est vraiment pour nous le médiateur par excellence. Une médiation très particulière, puisque c'est une médiation sacerdotale. Et c'est là où nous comprenons comment le sacerdoce du Christ joue ce rôle si important dans l'économie divine. Le sacerdoce, dans la première alliance, l'alliance avec le peuple d'Israël, joue un rôle beaucoup moins grand. Sacerdoce lévitique qui prépare le sacerdoce du Christ. Mais le sacerdoce lévitique joue un rôle beaucoup moins grand. Dans l'ancienne alliance, c'est le mystère de l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Un mystère de paternité, en premier lieu. Puis nous voyons le législateur, qui joue un rôle très important, Moïse. Moïse n'est pas prêtre. Moïse est Aaron. Moïse est le sacerdoce lévitique. Et nous voyons la royauté, instituée par les prophètes. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe à bien préciser comment Dieu gouverne le peuple d'Israël. C'est pas étonnant, parce que c'est encore imparfait. La perfection, elle viendra avec Jésus. Et la perfection, elle se noue autour du Fils que le Père nous envoie, le Fils bien-aimé. Et ce Fils est le médiateur par excellence. Et il est prêtre. Et donc tout dans la nouvelle alliance est centré autour de cette médiation sacerdotale. Et dans cette médiation sacerdotale, nous comprenons que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est un sacerdoce d'amour où le prêtre est en même temps victime. C'est Jésus qui s'offre. Pour mieux comprendre cette médiation sacerdotale, il faut comprendre comment Dieu, dans sa sagesse, a voulu la médiation la plus parfaite qu'il soit, unir Dieu aux hommes, dans son Fils bien-aimé. Il vient nous sauver, sauver la race humaine qui est tombée dans le péché à cause du premier péché. Adam responsable de l'humanité. Et son péché a une répercussion sur toute sa descendance. Il faut donc sauver cette race humaine qui ne peut pas par elle-même se sauver à cause de la gravité de sa faute qui atteint directement Dieu par l'orgueil dans la désobéissance. Et c'est pour ça que le sauveur de l'humanité ne peut être que Dieu. Il peut sauver cette humanité directement en lui pardonnant. Dieu aurait pu faire ça. Mais Dieu a voulu sauver l'humanité en se servant de la faute pour se donner plus. C'est cela la miséricorde. Il faut toujours bien distinguer le pardon divin de l'oubli. Dans notre vie, c'est très important. Pardonner, c'est beaucoup plus qu'oublier. Vous savez, quand quelqu'un dit « Ah, j'ai tout oublié, ne t'inquiète plus, je m'occupe plus de ce que tu as fait. » L'oubli est d'ordre psychologique. C'est très curieux, dans notre vie, il y a des choses qu'on n'oublie pas et des choses qu'on oublie. Quand un ami nous a blessés, on ne l'oublie pas. Quand un étranger a marché sur nos pieds, on l'oublie. On s'en inquiète plus. Mais un ami, non. Parce que ça nous semble une trahison. Alors ça nous blesse. Et ça demeure. Le pardon, c'est se servir de la blessure pour aimer plus. C'est ça qui est extraordinaire dans le pardon. On se sert de la blessure pour aimer plus. Dans l'oubli, on ne se sert pas de la blessure. On ne s'en occupe plus. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut pardonner indéfiniment. 70 fois 7 fois. Alors n'ayez pas un petit compute en notant « j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné ». Puis alors arriver à 70 fois 7 fois. C'est symbolique, ça. C'est un chiffre symbolique qui nous montre qu'il faut pardonner indéfiniment. Parce que la miséricorde est infinie. L'oubli n'est pas infini. La miséricorde de Dieu, la miséricorde du cœur de Jésus, elle nous est donnée à travers la charité. Et donc, nous devons pardonner indéfiniment. Ça explique, vous voyez, comment certaines blessures qu'on nous a faites peuvent revenir. On a tous connu ça, et on connaît ça maintenant. On a pardonné. On a pardonné à celui qui nous avait blessés. Et on est persuadé qu'on a pardonné parfaitement. Un an après, on se retrouve dans des circonstances analogues. Et ça revient avec une force. Les passions se réveillent. Je dis, mais je croyais avoir pardonné. Les passions reviennent parce que la blessure est là. Alors, il faut de nouveau pardonner. 6 mois après, c'est la même chose. Quelquefois 10 ans après. C'est très curieux. Et on refoule les blessures, on ne peut plus les regarder. Et quand on refoule une blessure, la gangrène s'y met. Là, c'est beaucoup plus terrible. Il faut exposer ses blessures à Dieu. Et demander à Jésus de nous apprendre à pardonner indéfiniment. C'est très grand la miséricorde, ce qu'on va voir avec le mystère de la croix. Mais avant, revenons encore sur ce chef-d'œuvre que Dieu a fait, le mystère de l'incarnation. Le grand chef-d'œuvre de Dieu, l'Opus Dei. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'incarnation. C'est l'œuvre de Dieu par excellence. Une incarnation liée au salut, telle qu'il a voulu la faire, telle qu'il l'a faite. C'est le grand chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne pouvait pas faire un chef-d'œuvre plus parfait que le mystère de cette incarnation de son Fils bien-aimé. Telle qu'il a voulu la faire. Alors c'est ça que le théologien regarde avec amour. Comment lier la nature humaine et la nature divine pour que la nature divine reste pleinement ce qu'elle est, pour que la nature humaine soit parfaitement ce qu'elle doit être. Autrement, il n'y aurait pas de médiation. Pour que Jésus soit le médiateur par excellence, il faut qu'il soit parfaitement de notre race. Et en même temps, il faut qu'il soit un avec le Père. Autrement, il ne serait pas le médiateur le plus parfait qu'il puisse être. Puisque être médiateur, on comprend tout de suite. Être médiateur, c'est lier les deux extrêmes qu'on veut unir. L'extrême, Dieu, ne peut pas aller au-dessus. Un avec le Père. L'extrême, la nature humaine pécheresse. Puisque le mystère d'incarnation s'est réalisé après le péché. Et donc, c'est la nature humaine pécheresse que Jésus vient prendre. Ne disons pas, comme certains peuvent le dire, je me suis bien, Mauriac disait ça en littérateur, parce que c'est pas un théologien. Il disait ça à propos de la Très Sainte Vierge, des phrases un peu terribles, pas du tout de les répéter, mais c'est Mauriac. Oh, elle est immaculée. Comme elle est loin de nous, j'aimerais mieux qu'elle soit pécheresse comme nous. C'est pas un blasphème hein, dans la bouche de Mauriac, c'est une bêtise, tout simplement. Mais une bêtise rhétorique. Vous voyez, c'est une bêtise rhétorique. On croit qu'on est proche du pécheur parce qu'on est pécheur avec. Psychologiquement, c'est vrai, mais pas divin. Marie est plus proche de nous parce qu'elle est immaculée. Elle est plus proche de nous. Jésus est plus proche de nous parce qu'il est Dieu. Évidemment, peut-être qu'on a un petit peu peur au début. Mais parce qu'il est Dieu. Sa nature humaine est plus proche de notre nature humaine parce que cette nature humaine subsiste dans le Verbe. Pas croire du tout que le péché nous rapproche. L'amitié des brigands est une triste amitié. L'amitié d'hommes vertueux qui s'aiment vraiment est une grande amitié. Là, vous le comprenez tout de suite. L'amitié des brigands, vous savez, ça ne dure qu'un temps. Et quand on a pris hein, tout l'argent à la banque, après, il faut le diviser. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est une amitié très intéressée, qui n'est pas une vraie amitié. à ce moment-là, chacun tourne le dos à l'autre. C'est très important. C'est très important de comprendre que Jésus, parce qu'il est Dieu, est le médiateur par excellence, plus proche de nous que n'importe quel autre homme. On fait de temps en temps cette expérience qu'on a pu fréquenter dans notre vie des amis de Dieu. On sent qu'ils sont plus proches de nous que n'importe qui, parce qu'ils sont des amis de Dieu. Alors ils nous comprennent tout de suite. Ils sont plus proches de nous que quelqu'un qu'on fréquente plus, mais qui est plein de défauts, plein de fautes. Et le péché nous isole. Puisque le péché, c'est un anti-amour. Alors le péché nous isole. On est replié sur soi par le péché. L'orgueil nous replie sur nous et nous empêche de communiquer vraiment aux autres. On ne peut communiquer aux autres que dans la mesure où on les aime. Et dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes totalement donnés. Dès qu'on est dans une attitude d'orgueil, on est replié sur soi. On désire posséder. Et donc, on est loin de l'autre. Le péché nous isole et nous empêche d'être parfaitement médiateurs. Seul l'amour permet la communication. Oui. La théologie de la communication, ça devrait être la théologie de l'amour et de la bonté. Parce qu'on communique aux autres dans la mesure où l'on est bon et dans la mesure où l'on aime. Et ce fameux adage dont on ne sait pas très bien d'où il vient, comme tout bon adage, il est perdu dans la brume. Bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi. Il se communique. Un homme bon se communique. Un homme parfait, pas tout à fait la même chose. Un homme bon se communique. Et c'est pour ça que saint Thomas commence tout le traité de l'incarnation en disant « Dieu est le bien suprême ». Donc il veut se communiquer le plus qu'il peut. Il peut aller jusqu'à l'incarnation. C'est une folie d'amour. C'est une folie de bonté. De faire que ces deux extrêmes, Dieu créateur, et même, allons plus loin, Dieu Père, dans la très sainte Trinité. Parce que ce n'est pas un mystère de la création, l'incarnation. C'est pour ça que ce n'est pas l'achèvement. C'est un mystère qui ne peut se comprendre qu'à partir de la révélation de la fécondité même de Dieu. De cette source de toute fécondité qui est le Père. Et c'est cette fécondité divine, propre à Dieu, qui nous est donnée. C'est fou. Il faut souvent se mettre devant cette folie de Dieu, cette folie d'amour. Je comprends très bien des réactions comme des philosophes, comme Merleau-Ponty. C'est fou. Dieu ne peut pas se confondre avec les hommes. Dieu ne peut pas se mêler avec les hommes. Dieu est l'éternel, il est l'immuable. Il ne peut pas se mettre avec les hommes qui sont dans le temps, qui sont limités, qui sont là-bas. On voit très bien ça. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Dieu assume l'humanité et permet à cette humanité d'être parfaitement elle-même et d'aller jusqu'au bout de ses qualités. Et aussi jusqu'au bout de sa capacité d'aimer et donc de sa vulnérabilité. Aucun homme n'a été aussi vulnérable que le Christ, capable de souffrir parce qu'il aimait infiniment. Ce mystère donc de l'incarnation, c'est l'union des deux natures dans la personne. Alors saint Thomas montre que le suppôt et l'hypostase dans la nature humaine, c'est la même chose que la personne. C'est pour montrer qu'on ne peut pas. Ça va très loin, c'est un problème qui revient aujourd'hui en théologie. Parce que aujourd'hui, c'est ce que Karl Rahner, un des grands théologiens du Concile jésuite, Karl Rahner, quand il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la théologie nouvelle, Karl Rahner dit explicitement qu'à la place de la métaphysique, c'est l'anthropologie qui commande toute la théologie moderne. On pourrait discuter très longuement ça. Je constate. C'est dit explicitement. Il y avait un étudiant à Fribourg qui faisait une étude philosophique sur la philosophie de Karl Rahner. Alors il lui a écrit et Karl Rahner lui a répondu très gentiment. J'ai vu la lettre. Karl Rahner a répondu, je n'ai pas de philosophie. Parce qu'on lui demandait si sa philosophie c'était celle de saint Thomas, si c'est celle de Heidegger. Et Karl Rahner a répondu, je n'ai pas de philosophie, je suis un théologien. Alors évidemment on aurait pu lui répondre, mais un théologien se sert de la philosophie. Et alors Karl Rahner, très nettement dans ses écrits, a dit « La métaphysique, aujourd'hui, est remplacée par l'anthropologie. » Vous savez quel est le premier philosophe qui a nié et rejeté la métaphysique en disant « C'est l'anthropologie, c'est Kant. » Le terme « anthropologie » est entré en philosophie par Kant. C'est toujours intéressant de voir ça. Le premier qui prend le terme anthropologie à la place de métaphysique. Alors évidemment, l'anthropologie de Karl Rahner n'est pas du tout celle de Kant. Il ne faut pas dire ça du tout. Hein. Mais c'est quand même toujours intéressant de voir que remplacer la philosophie première par l'anthropologie, je crains que ce n'est pas juste. Qu'on puisse dire que l'anthropologie, depuis Kant, a pris en philosophie une place beaucoup plus grande, oui. Un jour, j'ai demandé au Saint-Père, dans un petit dialogue particulier, si sa philosophie, c'était bien une anthropologie ouverte à une métaphysique. Le Saint-Père n'oppose jamais les deux. Il m'a dit oui, c'est ça que je voudrais. Mais j'ai surtout travaillé l'anthropologie. Mais je veux que la métaphysique reste. Donc on ne doit pas opposer anthropologie et métaphysique. On doit comprendre que l'anthropologie, l'étude de l'homme, c'est évident que c'est très important. L'étude de l'homme dans toutes ses dimensions. Mais le Saint-Père veut, il me l'a dit je ne sais combien de fois, que la métaphysique demeure. Parce qu'on ne peut pas connaître parfaitement l'homme si on ne va pas jusqu'à la philosophie première, c'est-à-dire jusqu'à la métaphysique. Pour avoir un regard sur l'homme qui est ouvert au mystère de la laïcisation, c'est justement couper l'homme de Dieu. Et quel grand mal. Donc, comprenons bien cette position de saint Thomas qui se sert d'une philosophie première pour essayer de préciser la différence entre nature et personne. Nature et hypostase. Le terme hypostasis, c'est un terme grec. Hypostasis. Hypostasis, hypostase. Il faut bien comprendre, c'est un mal emploi. Il emploie. Hypostasis. Ça vient du grec. Et c'est chez Plotin que le terme hypostasis a pris toute sa force. C'est pas du tout un terme aristotélicien. Aristote emploie le terme hypostasis une fois ou deux fois. C'est très intéressant au point de vue épistémologique. Comme il est fils de médecin, il dit hypostasis, c'est le dépôt de l'urine. C'est très amusant, moi je trouve ça très amusant de voir que ce terme, chez Aristote, le dépôt, hypostasis. Et ce terme, qui au point de départ désigne tout simplement le dépôt, une oppose, la laisser tranquille, toute la saleté tombe en bas, hypostasis, ce qui stasis, ce qui se tient en bas, ce qui est déposé. Alors c'est très curieux que ce terme, progressivement, dans la philosophie grecque, chez Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ, le terme hypostasis désigne la personne. Donc le terme le plus noble. Je crois qu'il n'y a pas un terme dans la philosophie qui a fait ce cheminement. Cette évolution. Passer du dépôt à la personne. Curieux, ça. Ce qui montre bien, vous voyez, qu'il faut faire grande attention. Un terme, il y a l'étymologie, c'est toujours intéressant, c'est curieux. La fois où j'ai vu ça, j'avais jamais vu ça dit dans un livre, on n'ose pas le dire. Je comprends, enfin, mais c'est la vérité. La première fois que j'ai vu ça dans un Aristote, je me suis dit, oh, c'est amusant possible. Ce terme hypostasis veut dire hypostase. Chez Plotin, les trois hypostases, c'est sa trinité plotinienne. L'un, l'intelligence, l'âme. Trinité philosophique. Les trois premiers. Parce que les hypostases, c'est les trois premiers. Un. Mais ces trois premiers ne sont pas trois premiers, puisque l'intelligence dépend de l'un, est engendré par l'un. Et l'âme dépend de l'intelligence, est engendrée par l'âme. Donc, ils sont bien des chefs de file, des premiers, des hypostases. Mais des hypostases qui dépendent de l'un de l'autre. C'est en ça qu'on a dit que c'est une trinité. Il y a une procession de l'un par rapport. Saint Thomas emploie le mot hypostasis, hypostase. Et il doit passer du grec au latin. C'est toujours très intéressant le passage d'une langue à l'autre. C'est le génie du grec au génie latin. Hypostasis va traduire alors le terme « ce qui se tient par soi-même ». Donc ce qui est fondamental. Le fondement fait que tout le reste tient. Ébranler les fondements d'une maison par un tremblement de terre, vous verrez. Hein. Pas drôle d'assister à un tremblement de terre. Surtout quand vous êtes au sixième étage. Pouh. C'est les fondements qui sont bougés. Oui. Alors, La personne, c'est ce qu'il y a de fondamental. C'est sur quoi tout repose. C'est pour ça qu'elle est responsable. Il y a un lien. Le passage d'Aristote à Plotin, il y a quand même quelque chose. La personne, c'est le sommet et le fondement. C'est ce qui fait notre unité. Vous vous êtes endormi hier. Vous vous êtes réveillé ce matin. Et ce que vous vous êtes demandé, c'était la même personne. Quand vous commencez à vous demander ça, c'est dangereux. Hein. Parce qu'il y a une division qui se fait en vous. Vous avez tel âge, vous fêtez votre anniversaire, c'est très bien. Et vous ne vous demandez pas, est-ce que c'est la même personne qui était il y a telle année dans un petit berceau? Et on vous montre votre photographie. Oh, comme j'étais gentil. Photographie d'un gosse de 6 mois. C'est merveilleux. Ça sourit. Et quand cette... Elle aura 60 ans dans sa photographie. Oh, j'étais mignon. C'est la même personne. Mais ça a changé, hein. Ça a changé. Surtout pour tous ceux qui sont autour. Ça a changé. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est la même personne. C'est très mystérieux, la personne. La personne assume tout. C'est pour ça que c'est le tout. Mais c'est ce qui fait l'unité en nous. Notre personne est une grâce à notre finalité. Une personne très dispersée, pleine de relations. Elle est dispersée, il n'y a plus d'unité. Et ce qui fait l'unité de la personne, c'est la finalité. Je veux une vie contemplative. Je veux une vie d'amitié. Je veux réaliser telle chose. La recherche de la science, de la vérité. C'est la finalité qui mais une finalité qui s'enracine dans ce qui est le plus fondamental en moi. Alors, je comprends comment la personne du Verbe en Dieu, la personne du Fils, qui est toute relative au Père, et qui pourtant est parfaitement elle-même, dans la nature divine. La nature divine est la même dans le Père et dans le Fils. Et le Fils est distinct du Père dans tout ce qu'il est comme Fils. Et c'est ce Fils qui est envoyé par le Père pour nous sauver. Et c'est lui, pour nous sauver, qui assume notre nature humaine dans une unité personnelle. De sorte que la nature humaine du Christ, à la différence de notre nature à nous, elle a sa propre personne. Chacun d'entre nous, nous avons notre personne, notre nature humaine subsiste en elle-même. Et comme cette nature est une nature spirituelle, intellectuelle, capable d'aimer, c'est une personne. Notre personne est distincte de notre nature, mais elle ne fait qu'un avec notre nature. La nature humaine du Christ est parfaitement individuée. Elle a été formée en Marie quant à son corps. Le corps du Christ vient de Marie. Il ressemble plus à Marie que le corps de n'importe quel autre enfant ressemble à sa mère. Parce qu'il n'y a qu'un seul atavisme. Il n'y a pas deux atavismes. Parce que l'atavisme du Saint-Esprit, il n'est pas un atavisme. Donc il y a le Saint-Esprit, et c'est ça la délicatesse merveilleuse de l'Esprit-Saint. On verra ça dans le ciel. Parce que dans le ciel, nous contemplerons le mystère du Christ en Marie. Et nous verrons que la nature humaine de Jésus dépend uniquement de sa mère. l'individuation, l'individualité de Jésus fait qu'il ressemble à sa mère plus qu'aucun autre enfant. Et cette nature humaine, parfaitement individuée, subsiste tout de suite, dès le premier instant, dans le Verbe de Dieu. Et c'est pour ça que la nature humaine du Christ, ontologiquement parlant, c'est-à-dire au niveau de l'être, pas au niveau psychologique, au niveau de l'être, est dans un état radical de dépendance à l'égard du Verbe. Il n'y a pas de personne créée dans le Christ. C'est le Verbe qui assume la nature et qui l'assume pleinement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hypostase humaine. Il n'y a pas de suppôt humain dans le Christ. C'est le Verbe de Dieu qui assume la nature humaine et qui la fait subsister d'une subsistance divine, d'une subsistance unique. Là, nous touchons le mystère, hein. Je ne cherchais pas à comprendre. Mais nous adhérons à ce mystère. En vue du salut des hommes, en vue de cette médiation sacerdotale. Alors, je veux regarder avec vous encore dans cette question un article très, très important. Cette union est-elle quelque chose de créé? Est-elle la plus étroite qui soit? Je vais regarder rapidement avec vous ces deux articles, article 7 de cette question 2, puisqu'on n'a pas le temps de voir. Mais ça, c'est très beau. Alors, je prends tout de suite le corps de l'article. L'union dont nous parlons consiste dans une certaine relation entre la nature divine et la nature humaine, dans l'union hypostatique. Résultat de leur synthèse, de leur union, en l'unité de la personne du Fils de Dieu. Sa synthèse, c'est la traduction. Saint Thomas ne dit jamais synthèse. Bon, c'est sûr, et on considère cette union parfaite. Or, comme il a été dit dans la première partie de la somme théologique, toute relation entre Dieu et la créature est réelle dans la créature parce qu'elle provient d'un changement opéré en celle-ci, mais seulement dans la créature. En Dieu, rien n'est changé. Parce qu'elle ne suppose aucun changement en Dieu. Il faut donc reconnaître que l'union dont nous parlons n'est pas réelle en Dieu, mais seulement dans la créature. Alors comprenons bien ce langage théologique. Le mystère de l'union hypostatique provient du fait que la nature, que Dieu assume la nature humaine. Donc la nature humaine est totalement transformée divinement. Et elle est assumée dans le Verbe. Et cette union qui existe dans le Verbe est l'union la plus parfaite. Et c'est ce que saint Thomas précise à l'article 9, quand il montre que cette union est l'union la plus parfaite qui soit. On ne peut pas penser une union plus parfaite que celle-là, parce qu'elle est dans le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu est absolument indivisible. Alors voyez, on peut faire ce petit schéma pour que nous ayons un petit support, un intellectuelle. Nous avons donc le Verbe de Dieu. Le Fils. Le Fils bien-aimé. Il va assumer la nature humaine. C'est le Verbe de Dieu qui ne fait qu'un avec le Père, puisqu'ils ont même nature, et avec l'Esprit Saint. Ils ont même nature divine. C'est Dieu qui agit et qui assume la nature humaine. Et cette nature humaine, assumée par le Verbe, subsiste dans le Verbe. C'est cela qu'on appelle l'union hypostatique, définie par le Concile Vatican. C'est une union personnelle dans le Verbe de Dieu. Qu'est-ce qui est changé ? C'est la nature humaine du Christ, qui est comme entièrement relative dans tout ce qu'elle est au Verbe de Dieu, et qui garde son autonomie vitale de vie. Ce que nous allons tout de suite préciser. Cette nature humaine est ontologiquement, c'est-à-dire au point de vue de l'être, entièrement dépendante. Elle subsiste dans le Verbe. Alors, on parle de l'union hypostatique, l'union dans la personne. Cette nature humaine du Christ ne subsiste que dans le Verbe. C'est pour ça que je dis, elle est portée par le Verbe. Elle subsiste dans le Verbe. Une seule personne de nature. Et puisque la nature humaine est parfaite dans le Christ, elle a donc sa vie. Le principe de connaissance est plus juste. Parce qu'il y a deux vies. Une vie divine et une vie humaine. Ce qui explique comment il peut y avoir dans le Christ une adoration à l'égard du Père. Le Christ, c'est l'adorateur par excellence. Il vient nous apprendre cette adoration. Il y a une prière. Jésus prie. Dieu ne prie pas. Dieu aime. Et donc, dans le Christ, il y a une vie humaine parfaite dans sa volonté et dans sa connaissance. Et c'est pour ça que le théologien, en lisant l'Évangile, verra qu'il y a des paroles. C'est à partir de là, du reste, que le théologien essaie de comprendre ce mystère. Quand Jésus, à l'agonie, dit « Père, que ce calice s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Jésus exprime parfaitement le désir de son cœur, le désir très profond de son cœur. Et non pas sa volonté de choix. Parce que le choix du Christ, dans sa volonté, est toujours en conformité au choix du Père. C'est comme une aspiration, un appétit naturel. Que ce calice s'éloigne. Et tout de suite, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a accepté tout le mystère de la croix dans l'obéissance, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ceci s'exprime dans l'agonie. Alors, l'effort du théologien, c'est d'essayer de comprendre quel est ce qui est le contenu de cette volonté du Christ. Quand il dit que ce calice s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est une analyse théologique magnifique, cela, d'essayer de comprendre, et à travers toute l'Écriture. Quand le Christ dit « Je te rends grâce, Père, d'avoir révélé ces choses aux petits, non pas aux prudents et aux sages. » C'est Jésus qui rend grâce. Rendre grâce, ça fait partie de la prière. Je te loue. Jésus prie. Quand Jésus a 12 ans est venu au temple, c'est l'enfant Jésus qui prie. Jésus a prié tout de suite. Alors ça, c'est la grande question qui aujourd'hui, quelquefois, est mise en doute. Quelle est la conscience de Jésus? Ce qui est en doute, ce n'est pas la conscience, mais ce qui est en doute, c'est à partir de quel moment Jésus a-t-il vécu en fils bien-aimé du Père? Alors, selon la grande tradition, parce que ça, c'est la petite tradition moderne, elle peut ajouter des choses. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. Le théologien doit rester curieux. Il doit écouter. Mais évidemment, quand il voit que c'est des fantaisies, il les laisse tomber. Hein. Le théologien ne fait pas la théologie des fantaisies. Le théologien ne fait jamais la théologie des possibles. Est-ce qu'il y a des habitants qui ont une âme spirituelle en dehors de notre terre? Quelle serait leur théologie? Oui, là, c'est la théologie des possibles. Et le théologien a assez de travail pour regarder la vérité révélée. Ce qui, de fait, s'est révélé. Mais on sait, Jésus a été conçu en Marie par l'opération de l'Esprit-Saint. Dans le Christ, puisque c'est une nature humaine parfaite, nous devons donc distinguer son corps et son âme. Et son corps et son âme qui forment la nature humaine individuel est porté par le Verbe de Dieu. Une seule personne, le Verbe qui assume la nature humaine, le corps individué en Marie, formé en Marie, et l'âme créée par Dieu. Toujours les trois aspects qu'il ne faut jamais oublier. L'âme du Christ a été créée dès le premier moment de la conception, en Marie, dans le corps du Christ, et cette âme informée, ce corps, et cette âme qui est parfaite, une âme humaine, semblable à la nôtre, a eu sa vie propre, une vie d'enfant de Dieu et d'enfant de Marie. Jésus a aimé le Père comme un tout petit enfant de Dieu. Je dis parfaitement conscient qu'il était fils de Dieu. Personnellement, je dis ça à la suite de saint Thomas. Aujourd'hui, on dit, ah, est-ce qu'il avait vraiment conscience? Parce que justement, on oublie d'avoir un regard suffisamment contemplatif sur le Christ. Et on projette sur le Christ notre psychologie. Or, je crois que c'est une erreur. On ne peut pas projeter sur le Christ notre psychologie. Vous comprenez pourquoi? Parce que notre psychologie, elle implique des éléments qui relèvent de notre nature humaine, des éléments qui relèvent de notre état de pécheur. Nous sommes créés dans un état de pécheur. Et puis, nous avons reçu la grâce. Donc, en nous, au niveau de notre psychologie humaine, il y a la nature humaine, il y a l'état de pécheur, conséquence du péché originel, il y a la grâce. Il y a ces trois éléments. La nature humaine, c'est fondamental. La grâce, par le baptême, si on a été baptisé tout de suite, dès notre naissance. Et puis, l'état de pécheur. Le psychologue, comme psychologue, ne peut pas distinguer. Dans la colère d'un enfant, parce qu'on ne lui donne pas le biberon à l'heure, ça relève de sa nature humaine, c'est bien évident. D'un tout petit enfant, ça relève de son état de péché, c'est sûr. À cause du péché, l'irascible est beaucoup plus fort. Un petit enfant qui n'aurait pas le péché serait beaucoup plus sage. Ça, c'est sûr. L'état de pécheur augmente le déséquilibre, ou plus exactement, augmente l'appétit sensible d'irascible, de concupiscible, qui l'emporte sur le développement spirituel. C'est pour ça qu'on a une lutte intérieure. Mais quand vous étiez gosse, vous n'aviez pas de lutte intérieure. Peut-être vous vous rappelez la première fois où vous avez dit non à votre mère. Ça, c'est possible. On se rappelle très bien de notre non. Puis on a reçu une bonne gifle. Ça, ça se rappelle. Alors ça a fait évidemment un complexe. C'est évident, la main de notre mère est restée coupée. Mais ça fait rien, ça fait rien. Il y a un nœud. Puis il y avait la grâce. À quel moment la grâce est-elle éveillée en nous? Le psychologue ne peut pas faire le partage. Le théologien, lui, oui. Mais notre psychologie, elle implique des éléments très très variés. Et puis en plus de tout le contexte du milieu. En plus de ça, le milieu, qui joue énormément, le milieu familial, qui agit. Et toute notre psychologie, elle est faite de tout ça. Elle est très complexe. Je ne peux pas projeter sur le Christ ça. Pourquoi? Parce que sa nature humaine est dans un état de perfection. Dans un état de perfection unique, entièrement transformé par la grâce. Jésus touche ce qui en nous est enfant de Dieu et ce qui en nous relève de ce qu'il y a de plus profond de notre nature humaine. Et vis-à-vis de l'état de pécheur, Jésus a une miséricorde infinie. Mais Jésus n'a pas vécu l'état de pécheur. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu le péché. Il a porté les conséquences du péché. Il n'a pas vécu le péché. Tandis que nous, hélas, nous avons une psychologie d'orgueilleux. C'est le plus facile à comprendre. En psychologie, l'orgueil. Là, on est tous à la même psychologie. Et on comprend tout de suite les réactions orgueilleuses. Dans le Christ, jamais eu d'orgueil. Et une humilité. Alors vous voyez, c'est là où c'est très difficile de projeter sur le Christ notre conscience psychologique. On ne peut pas. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que la nature humaine dans le Christ est liée au mystère du Verbe incarné, au mystère du Verbe, puisque c'est une nature assumé par le Verbe. Et par le fait même, cette nature humaine a tout de suite reçu une plénitude de grâce. Là, je vous dis ce que saint Thomas lui dit en théologien. La nature humaine du Christ, à cause du mystère de l'union hypostatique, est la plus proche qu'elle peut être de la source de toute grâce. La source de toute grâce, c'est la très sainte Trinité. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. il y a un lien dans la nature humaine du Christ, subsistant dans le Verbe, il y a un lien unique avec la très sainte Trinité. Et ceci dès le premier moment de la conception. Et c'est pour cela que saint Thomas, lui, en tant que lien, et ça a été maintenu très longtemps, ça, jusqu'à Bellarmine, c'était maintenu très longtemps, c'est nouveau. Ça fait partie de la nouvelle théologie. De ne plus voir cela, de ne plus regarder cette plénitude de grâce dans l'âme du Christ. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Cette plénitude de grâce, qui est une grâce reçue dans l'âme du Christ, donc créée. C'est pour ça qu'on distingue toujours dans le mystère du Christ la grâce d'union qui est la nature humaine qui subsiste dans le Verbe. Et cette grâce d'union n'est pas créée, elle est l'unité de Jésus, de la nature humaine avec le Verbe. Et puis la grâce crée la plénitude de grâce, qui est la grâce sanctifiante. L'âme du Christ est totalement sanctifiée, entièrement sanctifiée, par une plénitude de grâce. Et parce que cette grâce est plénière, elle atteint tout de suite son terme. Il n'y a pas eu dans le Christ une croissance de cette grâce sanctifiante. Nous progressons. Aujourd'hui, on est un peu plus saints qu'hier, j'espère. Et demain, nous serons un peu plus saints qu'aujourd'hui. Tous les jours, nous avançons. Nous progressons jusqu'au moment où on aura atteint le terme. Dans le Christ, il n'y a pas croissance de cette plénitude de grâce, puisque cette plénitude de grâce provient de cet état particulier de la nature humaine unie à la source. Mais l'évangile de saint Luc nous dit que Jésus progressait, croissait, en science et en sagesse. Alors, les théologiens, saint Thomas et beaucoup d'autres, distingueront une croissance dans l'ordre de l'expérience. Et cette croissance a duré jusqu'à la remise de son âme, de son esprit, entre les mains du Père. Jésus a connu à la croix une connaissance affective de son Père, de lui-même et de son amour pour Marie, qui était l'ultime moment de la croissance de sa connaissance expérimentale. Sa connaissance expérimentale a connu dans le cri de soif quelque chose de tout à fait nouveau. Sa connaissance expérimentale a connu, quand il était sur la croix, quelque chose de tout à fait nouveau. La souffrance dans ce qu'elle avait de plus aigu. Et donc, il y a une croissance qui a été jusqu'au terme dans la vie du Christ. Croissance dans l'ordre expérimental. Le Christ n'a cessé d'avoir une expérience nouvelle. Vous voyez, nous, de temps en temps, on est fatigué d'expérience et on s'arrête. On dit, oh oui, c'est du connu. J'ai déjà connu ça. C'est une erreur de dire ça, parce qu'on ne l'a jamais connu. Chaque jour, notre connaissance expérimentale devrait nous permettre d'avancer. Mais nous vieillissons. Alors les pneus n'ont plus la même adhérence. Ils dérapent. Et on reste vivant dans la mesure où notre expérience continue d'augmenter. Et elle peut augmenter indéfiniment. Notre expérience ne fait pas appel seulement à nos sens. Nos sens se fatiguent. Notre vue se fatigue. Notre ouïe se fatigue. Donc à ce point de vue-là, c'est moins fort. Mais l'intelligence, se servant de la vue, se servant de l'ouïe, notre intelligence ne cesse de progresser. Et donc notre expérience peut toujours augmenter. Et c'est ça le réalisme. C'est de comprendre que l'expérience augmente tout le temps. Et qu'on est de plus en plus attentif à ce qu'on vit. Parce que si on n'est plus attentif à ce qu'on vit, on dérape. Et de temps en temps, on voit des gens qui viennent voir, qui n'ont pas l'air du tout d'être attentifs. Ils continuent de dormir, ils sont somnambules. Ils font des gestes machinaux, ils ne sont pas du tout présents. Parce que leur intelligence n'est pas suffisamment présente dans leurs sensations. Et dans l'expérience qu'ils font. Alors dans le Christ, il y a cette chose inouïe, tu vois, c'est là où, quand on veut contempler un peu l'âme de Jésus, cette chose inouïe, au point de vue de la grâce, cette plénitude de grâce, qui n'a pas connu de croissance. Il est le Fils bien-aimé, et le Père lui donne tout de suite son héritage. Il est le Fils bien-aimé. Et en même temps, il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Marie. Il est comme nous, dans notre conditionnement. Dans la finalité, Jésus est premier. Il atteint tout de suite la finalité. Dans l'ordre du devenir, Jésus a connu une croissance unique. Bien plus grande que nous. Nous sommes des lambins, nous. Nous avons de la peine, parce qu'il y a la paresse, le poids du péché. C'est la psychologie de la paresse. Hein. C'est terrible, la psychologie de la paresse. C'est conséquence du péché. Notre psychologie relève de notre nature humaine qui a besoin de la fin. Quand nous cherchons la finalité, quand nous cherchons la vérité, nous sommes au-delà du point de vue psychologique. La psychologie, c'est notre conditionnement. Et dans notre conditionnement, tout est un peu mêlé. En Jésus, le conditionnement n'a jamais été un mur, n'a jamais arrêté. Parce qu'il y avait une finalité parfaitement vécue. Une finalité parfaite. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et dans le cœur du Christ, il y a eu un amour unique. Plénitude d'amour. Et c'est à cause de cette plénitude de grâce, plénitude d'amour, que saint Thomas dit que tout de suite, dans l'âme du Christ, il y a eu la vision béatifique. Parce que la grâce est semence de gloire. Ça, c'est l'apôtre qui le dit. Semen gloriae. Notre grâce est faite pour voir Dieu. Nous sommes faits pour un jour voir Dieu, face à face. Le voir pleinement. Ici sur terre, nous vivons à tâtons, comme des aveugles. Nous vivons dans la foi. Alors on a la canne.